Nous sommes aujourd'hui avec une auteure, Séverine Arnold-Hibon. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez écrit une vingtaine de pièces de théâtre et jusqu'à ce jour, deux livres. Le premier, un hurluberlu dégingandé et une demi-portion, qui tourne beaucoup autour du handicap voilà, de votre mari. On en reparlera donc en deuxième partie. Mais plus récemment, vous avez sorti donc Madame Fée de la Résistance, qui est en quelque sorte un plaidoyer en faveur des femmes. Alors, vous êtes aussi chrétienne et mère de trois enfants.
Dans votre livre, donc, vous parlez des femmes. La société, suivant les époques, exige tour à tour des femmes qu'elles restent à la maison ou travaillent. Et il est difficile d'échapper à cela. Quel que soit leur choix aujourd'hui, les femmes culpabilisent puisqu'elles sont soit, et là je vous cite, coupables de ne pas s'occuper de leurs enfants, soit accusées de trahir le féminisme et accepter la domination des hommes. Comment essayer de réconcilier les deux ?
Justement, c'est toute la difficulté. Je me suis amusée à appeler ça la quadrature de l'utérus parce que une femme, particulièrement quand elle a des enfants, est complètement coupée en deux entre son désir de mettre en œuvre ses talents et de l'autre de prendre correctement soin de sa famille, dans la mesure où elle se rend parfaitement compte que ses enfants, dans les premières années, ont vraiment besoin d'elle. Mais il y a une présence très particulière de la maman dans les premiers mois, dans les premières années, et qui est difficile à nier parce que l'investissement en physique est quand même énorme. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois de tenir compte de cette réalité, des qualités personnelles de chaque femme, de ses dons, et d'essayer de résoudre tout ça, et en même temps, sans opposer toujours frontalement les femmes qui font des choix différents et qui le font de leur mieux. Mais toujours, d'après moi, en voyant juste un tout petit bout de la question, alors que quand on essaie de prendre plus largement les deux aspects, on arrive à réconcilier les deux, surtout aujourd'hui, où il y a toutes sortes de moyens assez récents qui nous permettent de travailler d'une manière beaucoup plus souple qu'autrefois. Voilà.
Les femmes modernes veulent souvent un travail, des enfants, sortir, voir du monde, sortir en tout cas du modèle de la femme au foyer. Mais vous, vous militez pour une vision autre du travail, qui n'est pas donc ni de l'oisiveté, ni la femme embrigadée dans une image de femme de ménage, mais une autre vision du travail, vous allez peut-être nous en parler, parce qu'elle est tripartite, si j'ai bien saisi, et enrichie par une vie tournée vers l'intériorité surtout.
Je n'arrive à comprendre le travail, l'équilibre possible pour une mère de famille, qu'à partir du moment où je considère ce que c'est qu'être profondément une femme. L'être féminin, dans ce qu'il a de particulier, dans ce qu'il a de propre. Et c'est seulement à partir de l'être qu'il m'est possible d'agir, et d'agir d'une manière parfaitement équilibrée qui me rend épanouie, qui m'aide à épanouir mon entourage.
Élever ses enfants, par exemple, pour vous, vous considérez que c'est aussi un travail, même s'il n'est pas rémunéré.
Pendant longtemps, j'ai tourné autour du problème en me disant, mère au foyer, ok, parce que je considérais que ça avait une valeur, tout en m'efforçant de travailler à côté. Mais je me disais, financièrement, qu'est-ce que ça vaut ? Rien, pas un clou. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, tout le monde constate la même chose. Est-ce que ça veut dire que réellement l'argent a plus de valeur que la qualité du travail que l'on peut fournir ? Et jusqu'à ce que je tombe sur les écrits d'un économiste que je connais bien, qui s'appelle Pierre-Yves Gomez, et qui explique que le travail peut être de trois sortes. Le travail salarié, le travail peut être rémunéré, ou le travail peut être non rémunéré. Le travail des mères au foyer appartient à la troisième catégorie. Et pourtant, c'est un véritable travail qui a une valeur économique. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que ce que vous faites à la maison, c'est quelque chose qui a une valeur économique, qui crée des liens, qui crée de la richesse, qui permet de faciliter la vie. La définition du travail économique, c'est tout ce qui permet de rendre ce qui nous entoure plus beau, plus fécond et plus vivant. Et ce travail qui est souvent relationnel, avec les enfants bien sûr, avec la famille, qui permet beaucoup de faire soi-même, ça a une valeur économique absolument indéniable, parce qu'on redéveloppe des savoir-faire, des savoir-être, qui sont parfois oubliés. De savoir que quelqu'un est présent dans la journée dans l'appartement juste à côté, pour une personne âgée par exemple, c'est crucial, ça peut être fondamental. Savoir que je peux décrocher mon téléphone à n'importe quel moment ou presque, ça rassure des gens qui sont autour de moi, y compris des parents qui savent pas quoi faire de leurs enfants quand il y a un professeur ou un instituteur absent, une crèche qui ferme, des grèves, quelque chose. Bah oui, moi je suis là. Je peux en avoir un ou deux à la maison, c'est pas grave, je vais continuer à travailler, je vais m'organiser, tout est possible. Ça me permet une très grande souplesse. Et bien sûr, ce travail a un sens, mais il n'est vivable qu'à partir du moment où c'est un choix de couple. Parce que si mon mari me disait que je ne travaille pas, je courrais travailler à l'extérieur immédiatement. Ça ne peut se considérer qu'à partir du moment où les deux sont d'accord, comprennent le sens que ça a, en comprennent la valeur, et cherchent dans une forme d'interdépendance, vraiment l'un envers l'autre, à œuvrer en faveur d'une vie de famille vraiment équilibrée, qui permette à chacun de travailler davantage sur ses talents, parce que, enfin, en l'occurrence, je ne fais pas que ça, mais ça prend tout de même une grande partie de mon temps.
D'ailleurs, à un moment, vous parlez justement des nombreuses qualités de la femme au foyer, et puis vous dressez le profil professionnel de femme au foyer. Alors c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, je suis même pas sûre que moi, je serai à la hauteur.
Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que personne n'est à la hauteur. Il n'y a pas une seule femme qui correspond au profil. Mais en plus, on lui demande de ne pas être rémunérée du tout et de considérer que ce qu'elle fait ne vaut pas un clou. Alors que c'est juste, c'est à la limite un idéal. Et chaque femme s'efforce de le conjuguer un peu comme une équilibriste. Je connais beaucoup de mères de famille qui ont décidé d'être au foyer pendant plusieurs années et qui, reprenant un travail, après, mettons, un congé parental, disent « Mais qu'est-ce que c'est plus facile de travailler à l'extérieur que d'être sans arrêt en train de jongler avec l'emploi du temps, bien sûr, mais aussi d'avoir une responsabilité presque permanente sur le travail que je suis en train de fournir. » Exactement comme un entrepreneur, en fait, qui compte son temps en se disant « Là, quelle est la chose la plus indispensable que je dois faire maintenant ?» Ça suppose une anticipation de tous les instants, une optimisation du temps, qui est une formation d'esprit assez vraiment dense, quoi.
On va parler un peu de la vision des femmes à travers les siècles. Alors, mineure à vie chez les Romains, séductrice ou génitrice chez les Grecs, inférieure en esprit pour Voltaire, et voilà les mots qui reviennent le plus souvent, sorcière, impure, manipulatrice, à peu près de tous les temps, on va dire. Alors, comment sortir de ces injonctions conscientes ou inconscientes, déjà à l'époque, et puis aujourd'hui?
Il n'est pas facile du tout de sortir de ces injonctions, sauf en prenant le temps, et c'est là qu'on aborde le thème de la vie intérieure par lequel on a commencé, en prenant vraiment le temps de creuser le sens profond de la féminité. Certaines époques l'ont vécu d'une manière beaucoup plus intense que la nôtre. J'aime beaucoup le Moyen-Âge pour cette raison. En gros, dans la période qui s'étend du 10e au 13e siècle, a vraiment été une période d'une très grande richesse sur la compréhension à la fois du monde et de l'homme et de la femme. Mais aujourd'hui, il y a des penseurs qui ont permis d'arriver à une compréhension beaucoup plus juste de ce que c'est que la féminité. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur les écrits d'une théologienne uruguayenne, qui est morte maintenant, qui s'appelait Maria Teresa Porcil Santizo, qui aborde la féminité à partir de la Bible. Sa lecture de la Genèse est vraiment très intéressante, mais en plus, elle ajoute un tout petit entrefilet. Ça prend 3 lignes dans un bouquin de pratiquement 500 pages, qui, moi, m'a fait l'effet d'une déflagration. Je me suis dit, mais comment se fait-il que personne ne le dise ? Elle explique simplement que le corps féminin a un langage, et que c'est ce langage qui permet d'entrer dans le mystère féminin. Parce que je me suis rendu compte que les différentes sociétés ont tendance à osciller en permanence entre d'un côté l'asservissement et de l'autre côté l'ultra-féminisme. Et que cette espèce de balance, mais qui est un déséquilibre permanent en fait, comme quelqu'un qui essaierait de marcher mais qui perdrait son équilibre tout le temps, ça déstabilise à la fois les femmes elles-mêmes, mais la société tout entière. Alors que à chaque fois qu'une société arrive à peu près à se stabiliser, tout d'un coup beaucoup de choses se mettent en place, se calent, ça pacifie tout le monde. Et il m'a semblé vraiment intéressant, notamment, d'écouter ce que le langage du corps avait à dire, parce que, enfin, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient les idéologies qui nous entourent aujourd'hui, bah, le corps est une des portes d'entrée de notre compréhension du monde. Et le corps féminin a quelque chose de fondamentalement étonnant. Dans la Genèse, par exemple, Maria Teresa nous dit que, alors que l'homme a été modelé, la femme, elle, est construite comme une place forte. Ça signifie qu'a priori, il y a quelque chose à protéger. Et l'espace, qui fait vraiment partie du corps féminin, elle l'appelle même un espace habitable. Bon, évidemment, on m'a dit un jour que c'est pas très fun comme expression, je veux bien le croire. Mais un espace habitable, ça parle quand même. Parce que autour de nous, il y a énormément de lieux habitables, à commencer par nos maisons, nos quartiers, nos villages, nos campagnes, la nature autour de nous. Et si l'espace habitable a un sens, alors le corps de la femme qui fait partie de son expérience, en tant qu'espace habitable, peut-être avoir des choses à nous dire.
Oui, c'est ça, être pleinement dans son corps.
Et d'autant plus que le corps d'une femme, d'après Maria Teresa, a 3 caractéristiques qu'on peut interpréter d'une manière à la fois physique et spirituelle qui me paraissent fondamentales. C'est qu'une femme donne son sang tous les mois, elle a la capacité de donner la vie, parfois au risque de perdre la sienne, et ensuite, elle est capable de nourrir un autre être humain à ses propres dépens. Et quand vous lisez ça littéralement, c'est déjà énorme. Mais au bout d'un moment, vous dites, mais c'est un langage corporel naturellement eucharistique. Alors là, en tout cas pour les chrétiens, c'est juste gigantesque. Moi, j'ai pas fini d'entrer dans le mystère. Je le balance comme ça. Parce que j'ai été très frappée de lire ça, dit de cette façon. Mais il me semble qu'on a quelque chose d'absolument énorme à méditer, à creuser, à recevoir et à vivre. Parce que c'est un cadeau gigantesque.
Alors, justement, pour parler de ce mystère féminin, christique, on pourrait dire, dans Madame fait de la Résistance, vous exhumez aussi quelques femmes célèbres à travers l'histoire. Donc vos modèles sont avant tout mystiques ou littéraires, parfois. Brontë, Jenner, ou encore, Thérèse d'Avila, qui construisit 17 couvents en Espagne, hein, grâce à son courage et sa ténacité. Alors, c'est important pour vous de prendre appui sur ces modèles-là ?
Prendre appui, oui, mais pas forcément sur des modèles. Mais oui. Prendre appui sur la connaissance de l'histoire. Je répète qu'un homme qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Une femme qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. C'est la connaissance du passé qui permet à la fois de vivre le présent, de savoir quelle valeur il a, de savoir ce que l'on doit à ceux qui ont vécu avant nous, et en même temps, construire l'avenir, soit pour se dire « Ah oui, ça c'était tellement magnifique qu'il ne faut pas l'oublier », ou bien au contraire, là c'est une erreur monumentale, comment faire mieux ? Enfin, c'est pour ça que j'aime bien m'appuyer sur l'histoire des femmes, parce que j'ai été très surprise à faire quelques recherches de voir que certaines époques sont vraiment très dures quand on est une femme, alors que d'autres ne le sont beaucoup moins qu'on ne le croyait, notamment le Moyen-Âge, et que certaines femmes, enfin, me sont apparues vraiment des figures vraiment emblématiques et importantes, notamment au XIXe siècle, qui vraiment a été une période très très difficile pour être une femme, parce que c'était vraiment une catégorie sous-considérée et totalement dévaluée. Notamment en Angleterre, où il faisait vraiment pas très très bon être une femme, l'Angleterre avant l'époque victorienne, de la fin du XVIIIe jusqu'à la reine Victoria, est vraiment très intéressante à cause de tous ces écrivains qui ont surgi et qui avaient des choses à dire à un moment où, a priori, elles n'auraient pas dû avoir la parole. Et j'ai bien aimé entendre leur voix et les écouter.
Alors, du coup, on va revenir à notre époque actuelle.
C'est une bonne époque, alors, du coup, pour les femmes. Comment vous sentez cette, entre guillemets, révolution? Je vous sens un peu dubitative.
Oui, perplexe, très perplexe. Parce que, bien sûr, il y a une conscience générale aujourd'hui qu'une femme a à vivre des choses aussi variées, diverses, à vivre aussi intensément qu'un homme. Ce qui est une évidence pour tout le monde, je l'espère, aujourd'hui. Mais si c'est pour faire, comme le dit souvent un slogan, de la femme un homme comme les autres, ben, je n'en vois pas l'intérêt. Si c'est pour faire comme si je pouvais vivre comme un homme alors que je me rends parfaitement compte que mon expérience est différente, je n'en vois pas l'intérêt. En fait, j'ai à la fois envie de vivre aussi intensément qu'un homme, sans jamais nier ce que je suis profondément. Y compris dans les zones de vulnérabilité, de fragilité. Parce que je sais que c'est cet être-là qui me permet de vivre pleinement. Et ce qui me dérange, c'est cette espèce de nivellement qui voudrait nier l'identité sexuée. Et je crois que partir vraiment de l'incarnation, partir du corps, de la réalité de notre chair, ça permet au moins d'avoir un tout petit peu les pieds sur terre et de savoir à peu près de quoi on parle. Et cette différence d'expérience, moi, elle m'émerveille et je n'ai pas du tout envie de la gommer. Je trouve qu'en couple, c'est particulièrement beau de sentir, de vivre, d'expérimenter tous les jours la différence homme-femme. Et c'est d'une richesse fabuleuse.
Et selon vous, quand le féminin est nié, on assiste à des pathologies de la raison pure, guerre, régime totalitaire. Et vous parlez aussi du djihadisme.
Oui. En fait, je crois que toute question existentielle sur l'homme ou sur la femme provoque des petits séismes, ou des séismes même plus ou moins grands, dans toute la société. Et entre autres, le défaut d'intériorité, le manque de vie spirituelle nous pousse dans des mythes collectifs. C'est Maurice Hundel qui disait ça. Elle me paraît vraiment frappante pour ce qui concerne tous ces jeunes qui basculent dans le djihadisme, mais je pourrais parler des femmes. On sent la puissance du mythe là-dedans et l'absence totale de vie intérieure qui fait que pour se raccrocher, on a besoin de structures extérieures qui évitent d'avoir à se demander à soi-même, vraiment, à titre strictement personnel, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui mène à la vie ? Qu'est-ce qui mène à la mort ? Et ces questions sont parfois très lourdes, elles peuvent être très pesantes, surtout quand on n'a pas beaucoup de références spirituelles, voire religieuses, ou éthiques, ou morales. Et il est très facile, en effet, de se raccrocher à une espèce d'armature qui vous simplifie tout ça en binaire, noir-blanc, noir-blanc, et qui vous évite d'avoir à chercher dans les profondeurs de votre être. Et c'est là, à mon avis, qu'on peut trouver la racine très profonde de ces gens qui, souvent très jeunes, qui basculent dans des choses complètement incompréhensibles, par vide.
Alors, certains vont aussi se raccrocher aux stéréotypes qui sont véhiculés, par exemple le rose, le maquillage, les poupées Barbie, véhiculées par la publicité et acceptées tacitement par beaucoup de parents. Et moi, c'est toujours ça que je trouve étrange, que les parents soient vraiment là-dedans aussi, quoi.
C'est un peu le même principe que ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous vous accrochez à un stéréotype, vous n'avez pas besoin de chercher davantage qui vous êtes. Ça simplifie tout. C'est la même chose aussi dans les sociétés hyper conformistes. Une femme à telle place, un homme à telle place, basta. C'est vraiment tout ce qui nous évite de réfléchir, de nous regarder en face, et pas dans un miroir, mais vraiment en face.
À l'adolescence, les filles sont tiraillées entre le désir de plaire ou la négation de leur corps féminin. Souvent, les premières règles sont associées à de l'impureté et les mères n'ont pas forcément une vision très positive de cela. Alors justement, comment aider ces adolescentes à s'accepter avec leur nouveau corps sans que ce soit un extrême ou l'autre finalement?
Déjà, je crois en les respectant, en permettant à leur entourage, notamment à leur père, mais à leurs frères aussi, de respecter ce qu'elles vivent, non pas pour s'en moquer, il y a toutes sortes de stéréotypes vulgaires sur la question, pas forcément des moqueries d'ailleurs, mais un côté, moi j'en rigole parce que j'ai un peu honte, mais pourquoi avoir honte de perdre du sang alors que c'est ce qui potentiellement peut donner la vie? Alors il y a toutes les notions d'impureté là derrière, beaucoup moins dans le christianisme, mais en même temps, il y a une espèce de silence, même les femmes en parlent à mots couverts entre elles, très peu d'une manière ouverte, alors que si une jeune fille apprendre sa maman que c'est un moment d'émerveillement, tellement ça lui ouvre de perspectives, des perspectives que ses frères ne connaîtront jamais. Ça peut déjà commencer à changer son regard sur elle-même. Ensuite, il s'agit que ses frères la respectent, que quand on élève des garçons, qu'on leur explique ce que ça peut être pour une adolescente ou pour une jeune fille, avec éventuellement les inconforts, parfois les douleurs, les maux de tête, les petites difficultés qui peuvent surgir. Le fait que certaines filles disent « non, je vais pas me baigner aujourd'hui ». Et pourquoi ? Parce que certaines, à ce moment-là, ont peur d'avoir froid. Parce qu'elles savent qu'elles auront mal si elles ont froid. Ce n'est pas simplement un tampon qui va changer la question. Et que les garçons, non seulement n'ont pas à se moquer, mais ont à apprendre la délicatesse à ce sujet-là. Et chez les adolescents, je pense que ça fait vraiment partie d'une éducation que nous avons le devoir de leur donner. Et seulement à ce moment-là, si les jeunes filles se sentent vraiment respectées, voire protégées d'une certaine manière, dans un moment où elles se sentent vraiment vulnérables, alors elles sont capables d'aller chercher le sens profond de la féminité. Elles vont vraiment accepter d'entrer dans la vie intérieure et d'entrer dans la différence corporelle, dans une image tout à fait positive de soi pour mener une vie active, heureuse, pleine de vie,